6. Sur le chemin du retour, tandis qu'ils retournaient vers la grande route, Indy marchait à distance devant eux, portant le fauteuil replié et ses circuits jouant un air de cornemuse. Susanna dit d'un air songeur :
Faudrait peut-être que je renonce au pistolet, Roland, et que je me concentre sur le plat. Pousser ce cri avant de lancer, ça procure une satisfaction primaire.
Tu m'as rappelé mon faucon, à voir Roland. Un sourire éclatant illumina le visage de Susanna.
Je me sentais comme un faucon. Ritza, oh Ritza! Rien que de prononcer ces mots, ça me met d'humeur à lancer.
Dans l'esprit de Jake, cette remarque raviva un obscur souvenir de Gasher. Ton vieux pote Gasher, comme se serait qualifié le monsieur lui-même. Et il frissonna.
Tu abandonnerais vraiment le pistolet? Demanda Roland.
Il ne savait pas s'il était plus amusé ou atterré.
Est-ce que tu roulerais tes cigarettes si on te les faisait sur mesure? Demanda-t-elle. Puis, avant qu'il pût répondre,
non, pas vraiment.
Pourtant, le plat est une arme excellente. Quand ils viendront, j'espère pouvoir en lancer 2 douzaines et cerner mes limites.
Y aurait-il une pénurie de plats? Demanda Eddie.
Non,
le rassura-t-elle. Il n'y en a pas beaucoup de décorés comme celui que Cy Eisenhart a lancé pour toi, Roland, mais ils ont des centaines de plats d'entraînement. Rosalita et Sari Adams sont en train de faire le tri, rejetant tous ceux susceptibles de ne pas voler droit.
Elle hésita, puis baissa la voix.
Je les ai toutes vues à l'œuvre, Roland, et bien que Sari soit courageuse comme une lionne et prête à affronter un ouragan, elle n'a pas le truc. « Hein ?»
demanda Eddie avec compassion.
« Pas tout à fait, » admit Susanna. « Elle est bonne, mais pas autant que les autres. Elle n'a pas la même férocité. »«
J'aurais peut-être quelque chose d'autre pour elle, » suggéra Roland. « Et de quoi s'agirait-il, mon chou ?»«
Un travail d'escorte, peut-être bien. »«
On va voir comment elle tire après-demain. » Rien de tel qu'un petit concours pour mettre un peu d'ambiance. À 5 heures, Susanna, elles sont au courant?
Oui, toute la cala viendrait si on les laissait faire.
Voilà qui était décourageant, mais il aurait dû s'y attendre.
Je me suis tenu trop longtemps à l'écart du monde des hommes, se dit-il, pour sûr.
Rien que ces dames et nous, personne d'autre, rappela Roland avec fermeté.
Si les Falcons de la Cala voyaient les femmes lancer avec talent, ça pourrait en gagner bon nombre à notre cause. Les indécis.
Roland secoua la tête. Il ne voulait pas qu'ils sachent combien les femmes lançaient bien, c'était un point capital. Mais que la ville sache qu'elles lançaient, c'était peut-être pas une mauvaise chose.
Sont-elles bonnes, Susanna? Dis-le-moi.
Elle y réfléchit, puis sourit.
« Des tueuses d'élite, » répondit-elle. « Toutes jusqu'à la dernière. »
« Et tu peux leur enseigner ce lancer croisé ?» Susanna considéra la question. On pouvait apprendre à peu près n'importe quoi à n'importe qui, à condition d'avoir assez de temps et assez de main-d'œuvre, et ils ne disposaient d'aucun des deux. Il ne leur restait plus que 13 jours, et d'ici à ce que les sœurs de Ritza, y compris leur tout nouveau membre, Susanna de New York, fassent leur démonstration dans la cour du père Callahan, il ne leur resterait plus qu'une semaine et demie. Le lancer croisé lui était venu naturellement, comme tout ce qui concernait le tir au pistolet. Mais pour les autres...
« Rosalita apprendra, » finit-elle par dire. « Margaret Eisenhart pourrait l'apprendre, mais il est possible que ses nerfs lui jouent des tours au mauvais moment. « Zalia... »
Non, il vaut mieux qu'elle lance un seul plat à la fois et toujours dans la main droite. Elle est un peu plus lente, mais je peux garantir que chacun de ses plats fera couler le sang.
Ah, fit Eddie, jusqu'à ce qu'un vif argent lui fonce droit dessus et la fasse exploser dans son corset, tu veux dire.
Susanna ignora la remarque d'Eddie.
On pourrait bien les atteindre, Roland. Tu sais que ça pourrait arriver.
Roland acquiesça. Ce qu'il avait vu l'avait beaucoup encouragé, notamment à la lumière de ce qu'Eddie lui avait révélé. Susanna et Jake connaissaient eux aussi l'antique secret du grand-père maintenant. En parlant de Jake, d'ailleurs, tu es bien silencieux aujourd'hui, dit Roland au garçon. Tout va bien ?
Je vais bien, grand merci,
répondit Jake. Il observait Andy. Il repensa à la façon dont Andy avait bercé le bébé. Il se disait que si Tian, Zalia et les autres enfants mouraient et qu'Andy restait seul pour élever Aaron, le petit serait sans doute mort avant 6 mois. Mort ou devenu ce qu'on faisait de plus bizarre comme gamin dans tout l'univers. Andy lui changerait ses couches, Andy lui donnerait à manger la nourriture appropriée, il lui ferait faire son rôt quand il en aurait besoin, et il aurait tout un stock de berceuses. Il les chanterait toutes parfaitement, et aucune ne serait inspirée par l'amour maternel ou paternel. Andy n'était rien d'autre qu'Andy, le robot messager, nombreuses autres fonctions. Il vaudrait mieux pour le petit Aaron se faire élever par... par les loups. Cette pensée le ramena à la nuit où Benny et lui avaient dormi sous la tente. Il ne l'avait pas refait depuis. Le temps était devenu frais. Cette nuit où il avait vu Andy et le pas de Benny en train de palabrer. Et puis le pas de Benny avait remonté la rivière, vers l'est. Vers Tonne Foudre.
Jake, es-tu sûr que ça va ?
Demanda Susanna.
Ouais, madame,
répondit Jake, quasiment certain que ça la ferait rire. Ce fut le cas, et Jake rit avec elle, mais il pensait toujours au pas de Benny, aux lunettes du pas de Benny. Jake était pratiquement certain qu'il était le seul à la cala à emporter. Un jour, Jake lui avait posé la question, alors qu'ils étaient tous les trois à cheval dans l'un des deux champs au nord du Rocking Bee, à la recherche de bétail égaré. Le pas de Benny lui avait raconté comment il avait échangé un très beau poulain de bon aloi contre ses lunettes, sur l'une des péniches marchées, à l'époque où la sœur de Benny était encore en vie, Oritza la bénisse. Il l'avait fait, alors que tous les autres cow-boys, y compris Von Eisenhart lui-même, lui avaient dit que ses lunettes nanes ne marchaient jamais, qu'elles n'étaient pas plus utiles que les prévisions d'Andy. Mais dès que Ben Slightman les avait essayées, elles avaient tout changé. D'un seul coup, pour la première fois depuis 7 ans, il avait vraiment pu voir le monde. Tout en chevauchant, il nettoyait ses lunettes sur sa chemise. Il les avait ensuite tendues vers le ciel, et le soleil avait fait danser 2 ronds de lumière sur ses joues, puis il les avait remises.
« Si jamais je les perds ou je les casse, je ne sais pas ce que je ferai, » avait-il dit. « Je me suis très bien débrouillé sans elles pendant plus de 20 ans, mais on s'habitue aux choses en un clin d'œil. »
Jake se disait que c'était une belle histoire. Il était certain que Susanna l'aurait cru. A supposé déjà qu'elle ait remarqué ce trait particulier chez Slightman. Il avait comme l'impression que Roland aussi l'aurait cru. Slightman l'a raconté avec les mots qu'il fallait, ceux d'un homme qui savait apprécier sa chance et qui se moquait de convaincre les autres qu'il avait eu raison de tenter quelque chose quand tout le monde, son patron le premier, était si loin de la vérité. Même Eddie aurait pu avaler ça. Le seul problème avec l'histoire de Ben Slightman, c'est que c'était un mensonge. Jake ne connaissait pas les faits, son Shining n'allait pas si loin, mais il savait que Slightman mentait. Et ça le tracassait.
C'est sans doute rien, tu sais, il les a probablement eus d'une façon qui sonne moins bien. Si ça se trouve, un des manies les a rapportés d'un autre monde et le pas de Benny les lui a volés.
C'était une possibilité, en insistant un peu, on aurait pu en trouver à Jake une bonne 12 douzaine d'autres. C'était un garçon plein d'imagination. Pourtant, ajouté à la scène près du fleuve, cet épisode l'inquiétait. Quel genre d'affaires le contremaître d'Eisenhart pouvait-il avoir de l'autre côté de la Wye? Jake n'en savait rien. Et cependant, chaque fois qu'il soulevait le sujet avec Roland, quelque chose le retenait de parler. Après la comédie qu'il lui avait faite parce que lui avait des secrets.
Ouais.
Mais quoi, petit fouineur? Benny. Voilà ce qu'il y avait. C'était Benny, le problème. Ou peut-être qu'en fait, c'était Jake lui-même, le problème. Il n'avait jamais été doué pour se faire des amis, et là, il s'en était trouvé un bon, un vrai. L'idée de causer des ennuis au pas de Benny lui faisait mal au cœur. 7. Deux jours plus tard, à 5 heures, Rosalita, Zalia, Margaret Eisenhardt, Sarah Adams et Susanna Dean se réunirent dans le champ situé juste à l'ouest du joli cabanon de Rosa. Il y eut un tas de gloussements et quelques éclats de rire nerveux et perçants. Roland resta à bonne distance et ordonna à Eddie et à Jack de faire de même. Mieux valait les laisser se défouler un peu. Alignés contre la barrière, à 3 mètres les uns des autres, se trouvaient des mannequins avec de grosses vivraves en guise de tête. Chacun était entouré d'un sac de jute pour simuler la capuche d'une cape. Au pied de chaque mannequin étaient disposés 3 paniers. Le premier rempli d'autres vivraves, le deuxième de pommes de terre. Quant au contenu du troisième, il avait soulevé des grognements et des gémissements de protestation. Dans le troisième se trouvaient des radis. Roland leur dit d'arrêter leur vagissement. Il avait pensé y mettre des poids. Aucune d'entre elles, même Susanna, n'aurait pu jurer qu'il plaisantait. Callahan, qui ce jour-là portait un jean et un gilet de gardien de bestiaux à nombreuses poches, rejoignait Roland à grandes enjambées sous le porche où ce dernier fumait en attendant que les femmes se calment. Jake et Eddie jouaient aux dames juste à côté.
« Fauna Eisenhardt est là, devant la maison, » dit le père à Roland. « Il dit qu'il va descendre boire une bière chez Tuki, mais qu'avant, il veut vous dire un mot. »
Roland soupira, se leva et traversa la maison. Eisenhardt était assis à l'avant d'une carriole tirée par un seul cheval, les bottillons posés sur le garde-boue, contemplant l'église de Callahan d'un air morose.
« Bonjour à vous, Roland. » dit-il.
Quelques jours plus tôt, Wayne Overholser avait donné au pistolero un chapeau de cow-boy à large bord. Il l'effleura du doigt en signe de bonjour et attendit.
« Je suppose que vous allez bientôt envoyer la plume, »
fit Eisenhardt.
« Convoquez un conseil, s'il vous en plaît. »
Roland considéra la question. Ce n'était pas les affaires de la ville de dire à des chevaliers d'Elde quel était leur devoir, mais Roland était disposé à les tenir informés de ce devoir. Il leur devait au moins ça.
Je voulais juste que vous sachiez que quand l'heure viendrait, je toucherai la plume et je la ferai passer, et que vienne le conseil, je dirai si fait.
Grand merci, répondit Roland. Il était réellement touché. Depuis qu'il avait été rejoint par Jake, Eddie et Susanna, il avait le sentiment que son cœur s'était agrandi. Parfois, il le regrettait, mais la plupart du temps, non.
« Mais Took n'en fera rien. »«
Non, acquiesça Roland, tant que les affaires marchent bien, tous les Tooks du monde ne touchent jamais la plume, ni ne disent si fait. »«
Overholser est avec lui. »
Ce fut un coup dur, qui ne le prenait pas totalement au dépourvu, mais il avait espéré qu'Overholser se joindrait à eux. Néanmoins, Roland avait tout le soutien qu'il pouvait souhaiter, et il se doutait qu'Overholser le savait. La sagesse aurait consisté pour lui à se contenter d'attendre que tout soit terminé, quelle que soit l'issue. S'il s'en mêlait, il avait peu de chance de voir rentrer la prochaine récolte dans son fenil.
« Je voulais aussi que vous sachiez une chose, » dit Eisenhardt. « Si je vous suis, c'est à cause de ma femme. Et ma femme vous suit parce qu'elle veut se mettre en chasse. C'est ça, la raison de toutes ces histoires de lancer de plats. C'est la femme qui dit à son homme ce qu'il doit faire ou pas faire. C'est pas naturel. C'est l'homme qui doit mener la femme. Sauf pour les babus, bien sûr. »
« Quand elle vous a pris pour le mari, elle a abandonné tout ce qu'elle avait connu jusqu'alors, » dit Roland. « Maintenant, c'est votre tour de donner un petit peu. »«
Vous croyez que je ne le sais pas ? Mais si vous me la faites tuer, Roland, vous emporterez ma malédiction avec vous quand vous quitterez la Cala, si vous en partez. Peu importe combien d'enfants vous sauverez. »
Roland, dont ce n'était pas la première malédiction, hocha la tête.
Si le cas le veut, Vaughn, elle vous reviendra.
Si fait. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit.
Je m'en souviendrai.
Eisenhart fit claquer les rênes sur le dos du cheval et la carriole s'ébranla. 8. Chacune des femmes trancha sa vivrave en deux à 30, 40, puis 50 mètres.
« Frappez la tête aussi haut que vous le pourrez dans la capuche !» leur dit Roland. « Si vous frappez trop bas, ça ne servira à rien. »«
À cause de l'armure, je suppose ?» demanda Rosalita.
« Si fait, répondit Roland, même si ce n'était pas l'entière vérité. Il n'allait pas leur dire ce qu'il voyait à présent comme l'entière vérité, pas avant qu'il soit vraiment nécessaire qu'elles le sachent. Puis ce fut le tour des patates. Sally Adams trancha la sienne à 30 mètres, la toucha à 40 et la rata complètement à 50. Son plat partit vers le haut. Elle lâcha un juron peu digne d'une dame, puis s'avança la tête baissée jusqu'au cabanon. Elle s'y assit pour regarder la fin du concours. Roland vit une larme perler au coin de son œil gauche et couler le long de sa joue burinée par le vent.
« J'ai failli, étranger. Mille pardons. »
Roland lui prit la main et la serra.
« Non pas, ça, et point du tout. Il y aurait du travail pour vous. Seulement pas le même que pour les autres. Et vous aurez peut-être à lancer le plat. »
Elle lui adressa un faible sourire et hocha la tête en signe de remerciement. Eddie replaça des têtes en vivrave sur les pantins, puis un radis au-dessus de chacune. Ces derniers étaient complètement dissimulés par l'ombre du sac de jute.
« Bonne chance, les filles !» dit-il. « Je préfère être à ma place qu'à la vôtre. »
Puis il recula.
« Commencez à 10 mètres, ce coup-ci !»
cria Roland. À 10 mètres, toutes firent mouche, ainsi qu'à 20. À 30 mètres, Susanna lança son plat haut, comme Roland le lui avait recommandé. Il voulait qu'une des femmes de la Cala gagne ce tour-là. À 40 mètres, Zalia Jafford attendit trop longtemps et le plat qu'elle lança coupa la vivrave en deux au lieu du radis posé dessus.
« Putain, comment là ?»
s'écria-t-elle. Puis elle se plaqua les deux mains sur la bouche et regarda en direction de Callahan, assis sur les marches à l'arrière de la maison. Le brave homme se contenta de sourire et d'agiter la main, feignant d'être sourd. Elle s'approcha d'Eddie et de Jack d'un pas lourd, furieuse et écarlate jusqu'aux oreilles.
« Il faut lui dire de me donner une autre chance, ne vous déplaise, » dit-elle à Eddie. « Je peux le faire, je sais que je peux le faire. »
Eddie posa la main sur son bras pour contenir le flot.
« Il le saisit. Vous restez dans la course. »
Elle leva vers lui des yeux brûlants. Elle serrait les lèvres si fort qu'elles en étaient presque invisibles.
« Vous êtes sûr ?»«
Ouais, » fit-il.
« Vous pourriez lancer pour les Mets, chérie. »
Puis vint le tour de Margaret et de Rosalita. Toutes deux touchèrent le radis à 50 mètres. Eddie murmura à Jake. « Mon vieux, je t'aurais dit que c'était impossible si je l'avais pas vu de mes yeux. » À 60 mètres, Margaret Eisenhart manqua la cible très nettement. Rosalita brandit son plat au-dessus de l'épaule droite, elle était gauchère, hésita et cria
« Ritza !»
avant de lancer. Roland avait beau avoir la vue perçante, il ne sut pas exactement dire si c'est le bord du plat ou le vent qui fit basculer le radis. Quoi qu'il en soit, Rosalita leva les poings au-dessus de la tête et les agita en riant « Loi ! Loi !» se mit à crier Margaret, bientôt rejointe par les autres. Même Callahan entra dans la partie. Roland alla retrouver Rosalita et la serra dans ses bras en une étreinte brève mais sincère. Il en profita pour lui glisser à l'oreille que s'il n'avait pas d'oie, il pourrait peut-être lui trouver un jar à long cou la nuit venue.
« Eh bien, »
dit-elle en riant,
En vieillissant, on prend son prix là où on le trouve. Pas vrai ?
Zalia jeta un regard à Margaret.
Qu'est-ce qu'il lui a dit ? T'as intuité ?
Margaret Eisenhart souriait.
Rien que tu n'aies entendu par toi-même, répondit-elle.
9. Puis les dames se retirèrent. Le père aussi partit faire une course quelconque. Roland de Gilead était assis sur les dernières marches du porche, le regard flânant sur les lieux de la compétition qui venait de s'achever. Quand Susanna lui demanda s'il était satisfait, il hocha la tête.
« Oui, je pense que tout est pour le mieux ici. En tout cas, il faut l'espérer, car le temps va venir à manquer. Tout va se précipiter maintenant. La vérité, c'est qu'il n'avait jamais eu à faire face à une telle quantité d'événements en même temps. Mais depuis que Susanna avait reconnu sa grossesse, il se sentait un peu rasséréné.
« Tu as rappelé ton esprit vagabond à la vérité du cas, » se dit-il. « Et c'est parce que cette femme a fait preuve d'un courage qu'aucun d'entre nous n'aurait été capable d'avoir. »«
Roland, est-ce que je dois retourner au Rocking Bee ?» demanda Jake.
Roland haussa les épaules et répondit.
« Tu le souhaites ?»« Ouais, mais cette fois, je veux emporter le regard. »
Le visage de Jake rosit légèrement, mais sa voix ne vacilla pas. Il s'était réveillé avec cette idée-là, comme si le dieu des rêves que Roland appelait Nice la lui avait communiqué pendant son sommeil.
Je le mettrai au fond de mon sac de couchage en l'enroulant dans ma chemise de rechange. Personne n'aura à savoir qu'il est là.
Il marqua une pause.
Je ne vais pas le montrer à Benny si c'est ce que tu crains.
Cette idée n'avait pas effleuré Roland. Mais qu'est-ce que Jake avait en tête ? Il lui posa la question. Et Jake lui donna le genre de réponse que donne quelqu'un qui a réfléchi par avance au tour que prendrait la conversation.
« C'est mon Dean qui le demande ?»
Roland s'apprêtait à répondre que oui. Puis il vit avec quelle intensité Eddie et Susanna l'observaient, et il se ravisa. Il y avait une différence entre garder des secrets, et chacun d'eux avait à sa manière gardé le secret de la grossesse de Susanna, et suivre ce qu'Eddie appelait une intuition. La requête derrière la requête de Jake, c'était d'avoir un peu plus les coudées franches. C'était aussi simple que ça. Et Jake avait bien gagné le droit d'avoir les coudées franches. Il n'était plus ce jeune garçon arrivé dans l'entre-deux-mondes, tremblant, terrifié et presque nu.
« Pas ton Dean, » répondit-il.
« Quant au regard, tu peux l'emporter où tu veux, quand tu veux. N'est-ce pas toi qui l'as apporté aux têtes, au départ ?»«
C'est moi qui l'ai volé, »
précisa Jake à voix basse, en regardant ses genoux.
« Tu as pris ce dont tu avais besoin pour survivre, » lui dit Susanna. « C'est pas du tout la même chose. »«
Écoute, trésor, tu n'as pas l'intention de tuer quelqu'un, n'est-ce pas ?»«
J'en ai pas l'intention, non ?»«
Sois prudent, » ajouta-t-elle. « Je ne sais pas ce que tu as en tête, mais sois prudent. » »«
Et, quel que soit le problème, » fit Eddie, « fais en sorte qu'il soit réglé dans la semaine qui vient. »
Jake acquiesça, puis regarda Roland.
« Quand projettes-tu de convoquer le conseil de ville ?»«
Si on en croit le robot, il nous reste 10 jours avant l'arrivée des loups. Donc, » Roland fit un calcul rapide, « conseil dans 6 jours. Ça te convient ?»
Jake hocha de nouveau la tête.
« Tu es sûr que tu ne veux pas nous dire ce qui te tracasse ?»«
Oui, à moins que ce soit mon Dean qui le demande, » répondit Jake.
« C'est sans doute sans importance, Roland.
Vraiment ?»
Roland hocha la tête d'un air dubitatif et se mit à rouler une cigarette. Avoir du tabac frais était un vrai régal.
« Est-ce qu'il y a autre chose ? Parce que, dans le cas contraire... »«
Il y a quelque chose, en fait, » intervint Eddie.
« Quoi ?
Il faut que j'aille à New York.
Eddie avait parlé d'un air détaché, comme s'il proposait une simple virée à l'épicerie du coin pour acheter un bâton de réglisse, mais ses yeux pétillaient d'excitation.
Cette fois-ci, faut que j'aille en chair et en os. Ce qui veut dire utiliser la boule plus directement, j'imagine.
La 13e noire. Et j'espère vraiment que tu sais comment faire, Roland.
Pourquoi as-tu besoin d'aller à New York ? Demanda Roland. Et là, c'est bien ton Dean qui te le demande.
Évidemment, répliqua Eddie. D'ailleurs, je vais te le dire. Je veux y aller parce que tu as raison. Le temps commence à manquer et parce que les loups de la Cala ne sont pas ceux dont nous devrions nous inquiéter le plus.
Tu veux voir où on en est par rapport au 15 juillet, c'est ça ? Demanda Jake.
Ouais. Depuis qu'on y est tous allés va à Dash, on sait que le temps s'accélère dans cette version de New York de 1977.
Vous vous rappelez la date sur le numéro du New York Times que j'ai trouvé devant la porte ?
Le 2 juin, lui rappela Susanna.
Exact.
Et on est presque certain qu'on ne peut pas remonter le temps dans ce monde-là. Chaque fois qu'on y va, le temps a avancé. Pas vrai ? Jake hocha la tête énergiquement.
Parce que ce monde n'est pas comme les autres, sauf si c'est le fait d'avoir été envoyé va à Dash par la 13e noire qui nous donne cette impression.
Je pense pas, fit Eddie. Ce tronçon de la 2e avenue entre le terrain vague et, disons, la 60e rue, c'est un endroit très important. Je pense que c'est une porte. Une grosse porte. Jake Chambers avait l'air de plus en plus excité.
Pas jusqu'à la 60e, pas si haut. Je dirais la 2e avenue et la partie située entre la 44e et la 46e rue.
Le jour où j'ai quitté Piper, j'ai senti un changement quand je suis arrivé à hauteur de la 44e rue, sur 300 mètres. La partie avec le disquaire, Mama Chocho et le restaurant spirituel de Manhattan. Et le terrain vague, bien sûr. C'est l'autre extrémité. C'est... Je ne sais pas.
Se trouver là, c'est comme avoir accès à un monde différent, un monde clé.
Je crois que c'est pour ça que le temps ne revient pas en arrière.
Roland leva la main.
« Ça suffit !» Eddie se tut et adressa à Roland un regard interrogateur accompagné d'un petit sourire. Roland ne souriait pas, lui. Son état de bien-être s'était quelque peu évanoui. Il y avait trop à faire, bon Dieu ! Et pas assez de temps pour tout faire.
« Tu veux voir où en est le temps, combien il reste avant que cet accord arrive à échéance ?»
J'ai bien suivi.
Oui.
Tu n'as pas besoin d'aller physiquement à New York pour répondre à cette question, Eddie. Le va-à-Dash suffira largement.
Le va-à-Dash suffirait pour vérifier quel jour nous sommes, de quel mois, rien de plus.
On a été stupides au sujet du terrain vague, les gars, mais vraiment stupides.
10. Eddie pensait qu'il pouvait posséder ce terrain vague sans toucher à un centime de l'héritage de Susanna. Pour lui, le récit de Callahan montrait clairement comment y parvenir. Pas la rose. On ne pouvait posséder la rose, ni eux, ni qui que ce soit, juste la protéger. Et ils étaient en mesure de le faire. Peut-être. Quelle que fût sa peur, Calvin Tower avait attendu dans cette laverie abandonnée pour sauver la peau du père Callahan. Quelle que fût sa peur, Calvin Tower avait réussi, le 31 mai 1977 du moins, de vendre son dernier bien à la Sombra Corporation. Eddie se dit que Calvin Tower était ce qui se rapprochait le plus d'un héros. Eddie repensait aussi à la façon qu'avait eu Callahan de se cacher le visage entre les mains. La première fois qu'il avait mentionné la 13e noire... Plus que tout, il voulait qu'on la sorte de son église. Mais jusqu'à maintenant, il se trouve qu'il l'avait gardée. Tout comme le propriétaire de la librairie, le père avait tenu bon. Qu'ils avaient été idiots de supposer que Calvin Tower demanderait des millions en échange de son terrain vague. Il voulait qu'on l'en débarrasse, mais pas avant d'avoir trouvé le bon acquéreur. Ou le bon cas-tête.
Susiela, tu ne peux pas y aller, toi, parce que tu es enceinte, reprit Eddie. Jake, tu ne peux pas y aller parce que tu n'es qu'un gosse. Et même sans tenir compte du reste, je suis presque certain que tu ne pourrais pas signer le genre de contrat auquel j'ai réfléchi depuis que le père Callahan nous a raconté son histoire. Je pourrais t'emmener avec moi, mais on dirait bien que tu as des choses à tirer au clair ici. Ou bien je me trompe.
Tu ne te trompes pas, dit Jake. Mais je serais même presque prêt à y aller avec toi. Ça a l'air super.
Eddie sourit.
Il faudrait t'armer de grenades et te faire à cheval, gamin.
Quant à y envoyer Roland, sans aucune patron, mais tu n'es pas très affable dans notre monde. Il y a une partie qui t'échappe à la traduction. Susanna éclata de rire.
Tu penses lui offrir combien ?
Demanda Jake.
Je veux dire, il faut quand même proposer quelque chose, non ?
Un billet ? Je vais sans doute devoir demander à Tavard de me le prêter, mais... Non ! On pourrait faire mieux que ça, fit Jake, l'air grave. Je dois avoir 5 ou 6 dollars dans mon sac à dos, j'en suis presque sûr. Il eut un large sourire. Et on pourra lui offrir davantage plus tard, quand les choses se seront un peu calmées de notre côté.
Si on est toujours en vie, ajouta Susanna.
Mais elle aussi avait l'air excitée. Tu sais quoi, Eddie ? Peut-être bien que t'es un génie. Balassar et ses amis ne seront pas contents si Sy Tower nous vend son terrain, glissa Roland.
Ouais, mais peut-être qu'on peut persuader Balassar de le laisser tranquille, suggéra Eddie.
Un petit sourire macabre lui anima le coin des lèvres. S'il faut entrer dans les détails, Roland, disons que Balassar est le genre de gars que je ne serais pas fâché de tuer 2 fois.
Quand veux-tu partir ?
Demanda Susanna.
Le plus tôt sera le mieux. D'abord parce que ne pas savoir quelle est la date dans ce New York-là, ça me rend dingue. Roland, qu'est-ce que t'en dis ?
Je dis que c'est pour demain. Nous emporterons la boule dans la grotte, puis nous verrons si tu arrives à passer la porte et à atteindre Lou et le camp de Calvin Tower. Ton idée est bonne, Eddie, et je te dis grand merci.
Et si la boule t'envoie au mauvais endroit ? Demanda Jake. Dans un mauvais août de 1977, ou bien,
il ne savait pas bien comment conclure, il se rappelait combien tout était devenu fragile la première fois que la 13e Noire les avait envoyés vers Adash et ces ténèbres infinies qui les attendaient derrière le décor de ces réalités superficielles,
ou bien encore plus loin.
« Dans ce cas, j'enverrai une carte postale, » fit Eddie en riant avec un haussement d'épaule, mais en un éclair, Jake put voir combien il était effrayé. Susanna avait dû le voir elle aussi, car elle prit la main d'Eddie dans les 2 siennes et la serra.
« Hé, ça va aller, » dit-il.
« T'as intérêt, » répondit Susanna. « Tu as plutôt intérêt. »